La fièvre.
Le côté toujours distrait par quelque chose. C'est encore une façon de nous raconter, quoi, un peu plus jovial, mais bon.
Et ce qui est assez représentatif, c'est que la fièvre, c'est une expression qui vient de Saint-Denis. Tant mieux, quoi, tu vois, ça reste nous.
Joey Starr et Kool Shen dans une interview lors de la sortie de leur album Paris sous les bombes en 95 pour dire que le titre La Fièvre change un peu leur tonalité. Bonjour Olivier Cachin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi Olivier. Vous êtes journaliste, grand spécialiste du rap. Vous avez écrit combien? 20-30 livres sur le sujet à peu près?
Oui, une petite trentaine.
Voilà. Les dernières en date, Rap Story, l'encyclopédie du rap chez Flammarion Jeunesse et Rap in France, l'émergence du rap français dans les années 90. C'est chez Castor Musique. Vous avez aussi et surtout écrit un livre en 2019 avec Kool Shen et Joey Starr sur le phénomène NTM, Suprême NTM, aux éditions Michel Lafon. Qu'est-ce que ça représente NTM dans l'histoire de la musique française, pas du rap français?
Bah, ça représente un peu la même chose que pour la musique anglo-saxonne, les Sex Pistols, une explosion, un changement, la radicalisation de quelque chose qui existait en sous-texte depuis quelques années, mais qui avec eux devient quelque chose de palpable, c'est-à-dire une musique révoltée, rebelle, jeune, et puis surtout qui est le premier signal de ce qui va devenir une déferlante, le rap français.
95 années charnières donc du rap français, mais on n'a pas tous vécu cette année-là de la même manière. Moi, en 95, j'avais 13 ans, j'étais en 4e, Bénédicte Crochet venait de refuser mes avances, alors que je lui avais pourtant offert une somptueuse barrette à cheveux au manège à bijoux du Leclerc de Presse-Saint-Mohens. J'étais au fond du trou et j'écoutais... Sans savoir que, plus vite que prévu, Michael serait lui aussi au fond d'un trou et R. Kelly, co-auteur de la chanson, au trou tout court. Zoom Zoom Back, spécial 95, c'est parti. Vous voulez qu'on revienne sur ce que vous venez de dire en antenne, Manon? La question que vous m'avez posée, quand même.
Non, allez, on enchaîne.
Très bien. Bon, je ne sais pas, c'est très bizarre. Elle m'a posé une question par rapport à mon lancement, en pensant que mon humour allait encore plus loin qu'il ne va. Ce qui est pourtant assez choquant. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Back. Chaque vendredi, Zoom Zoom Zen écrase une larme et regarde dans le réto pour se replonger dans une année marquante. Aujourd'hui, direction donc 1995, année marquée essentiellement, musicalement parlant, évidemment, par la réédition dans une version remasterisée de...
Toutes les semaines.
Mais n'étant pas du genre à forcer les choses et à tordre les faits pour offrir quelques droits d'auteur à un ami, j'essaierai d'être complet en vous disant que 95 c'était aussi Annie Lennox, No More I Love You, une chanson de rupture parfaite que j'avais d'ailleurs envoyée en mini-disque à Bénédicte Crochet qui m'avait répondu assez sèchement « Désolé, j'ai pas de lecteur ». Mais 95 dans les booms, c'était surtout Simple et funky, l'esprit funky. Je sais pas si vous m'imaginez en baggy dans le hall du collège, et pourtant cette scène a eu lieu.
En 95, baggy, n'importe où, d'ailleurs.
C'était Alliance Ethnique qui a connu la même trajectoire météorique que Intérieur Nuit, le groupe de Quentin. Le succès en plus, quand ils ont quand même été numéro 1 pendant cette année-là, pendant quelques mois. Camille Diao, notre spécialiste musical, nous fera découvrir une autre star qui explosait en 95. Je ne vous dis pas qui c'est, mais un indice. Vous entendez ici le responsable musique de France Inter, le gardien du temple, découvrir son nom. Voilà, autant vous dire que sur Inter, ça va surprendre, mais je veux y croire car Dieu m'a donné la foi.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Olivier Cachin, on va revenir sur NTM ensemble, juste le temps de vous présenter mes sympathiques collègues. Manon, qui chaque vendredi nous fait découvrir une première fois.
En 1995, les Américains découvraient pour la première fois Xena, la guerrière, l'héroïne de la série du même nom, a inspiré beaucoup de personnages féminins par la suite, mais elle a surtout été propulsée icône lesbienne.
Tiens donc, face à vous, Olivier, en 95, lui, il sautait sur le canapé du salon en chantant 4 ans devant les musclés et le club Dorothée, ça vous détruit une oreille. Heureusement, Quentin, vous ne me parlez pas musique cet après-midi. Le vendredi, vous vous promenez dans les archives de l'INA.
Le début de la Chirakie, des grèves qui bloquent toute la France en décembre et l'assassinat du Premier ministre israélien alors qu'il venait de prononcer un discours sur la paix, 1995, année chargée.
Et je viens de réaliser que la chanson La bombe atomique des musclés, c'est l'année des essais de Mururoa.
Ah oui?
Ben oui, enfin, ils étaient pile au cœur de l'actu, les musclés.
La bombe atomique.
Mais évidemment, enfin, dans les essais en tout cas. Je l'ai dit, Camille Diao nous rejoindra tout à l'heure, il y aura aussi Charles Nouveau en fin d'émission, mais il est temps de plonger allègrement dans 1995 avec vous, Olivier Cachin. En quoi c'est une année importante pour NTM 95?
Bah, c'est une année importante parce que c'est enfin, après 5 ans discographiques et 6 ou 7 ans d'existence, l'explosion du groupe, puisque faut rappeler que leur premier album, qui sort en 91, Authentique, recueille ce qu'on appelle un succès d'estime, se vend correctement, mais bon, sans non plus être un vrai délire. Il n'y a pas de tube énorme. Il y a Le Monde de Demain, qui est un morceau historique et épique, mais qui ne sera pas un tube au sens radiophonique du terme. Et puis le deuxième album, qui fait moins bien. 93, J'appuie sur la gâchette, notamment à cause de ce single et de ce clip magnifique de Seb Janiak, qui montre un suicide avec une vision du barillet et de la balle qui rentre dans la tempe, qui fait que M6 tombe en panique, le diffuse après minuit. La tournée, c'est ce que Kouchen va appeler des excursions. Il y a 4-5 concerts. Donc ils sont, non pas au fond du trou, comme vous le disiez tout à l'heure, mais en tout cas avec un sérieux recul commercial. Et là, c'est enfin, avec Paris sous les bombes, la révélation avec, notamment, Tout n'est pas si facile, et bien sûr La Fièvre, ce morceau tant honni depuis par Joey Starr, qui a refusé de le rejouer sur scène.
Ah oui,
il déteste le morceau. Bah, quand
pour quelle raison?
Ça va pas, quoi. C'est pas bien. C'est pas non. Ça.
Et vous trouvez que c'est vous qui êtes un expert de toute leur discographie, c'est pas leur meilleur morceau, quoi.
C'est pas mon préféré, mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que c'est un de leurs gros tubes et ils ne l'ont pas rejoué quand ils ont fait leur comeback.
Et le public ne leur demande jamais.
Si, mais le public, à un moment, ils sont pas là.
Que...
On n'est pas dans la variété. Ils font ce qu'ils veulent et voilà. Et si le public n'est pas content, il peut aller écouter, aller bouffer les culottes à sa grand-mère, comme dirait Joey dans une de ses expressions favorites.
Vous dites NTM, c'est aussi un des attelages les plus pétaradants du rap français. On peut pas faire personne. Plus différente. Kouchen et Joey Starr, c'est vraiment des gens très différents.
Ah bah oui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le maçon, celui qui fait que tout est possible, et puis l'électron libre qui arrive en retard aux sessions, qui des fois s'arrête. Une fois, c'est arrivé, il s'est arrêté pendant le concert pour regarder le concert tellement il était pris dans une ambiance de dingue. Quoi. C'est vraiment. On l'a souvent raconté, mais au début, quand il signe chez Epic, leur maison de disques, et qu'il touche le chèque, Joey Starr, il fait c'est bon, on s'en va là. On a fait le hold-up.
On a braqué. Bon,
on va pas rester. Et Kouchen fait si, on a un album à faire, on va le faire. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, il y a des sessions épiques où Joey arrive au bout, c'est avant le portable, hein, au bout d'une semaine. Ah, ça va les gars, ouais, j'étais ailleurs. Et Kouchen fait, ça fait une semaine qu'on t'attend. Ouais, bon, ça va, tranquille. Et tout ça est très chaotique. Donc il y a vraiment
beaucoup de mérite du côté de Kouchen d'avoir supporté tout ça pour permettre au groupe d'exister.
Ce qui est amusant, c'est quand on voit les deux qui ont chacun fait des projets séparés, c'est bien, mais c'est un peu comme Roger Waters sans nom de Pink Floyd. Il y a une alchimie qui marche pas et le public, il veut NTM, et c'est cette alliance de l'eau et du feu, du travailleur et de l'épicurien qui fait que c'est NTM et que ça nique tout.
Mais ils sont très amis.
Ah non, enfin plus maintenant. Ils ont été toujours très proches, mais c'est une amitié très très antagoniste. C'est-à-dire que c'est pardon pour l'oxymore, mais c'est vrai que par exemple aujourd'hui, et ils le disent chacun, Joey Starr est bloqué sur le portable de Kouchen. Ils ne se parlent plus depuis longtemps.
Et la dernière tournée, les derniers concerts, comment ça s'est passé?
Ah bah c'était une super émotion parce que moi j'avais les poils du bras au garde à vous, comme disait Nougaro, parce qu'à la fin du concert, on entend l'instrumental de J'appuie sur la gâchette avec ce sample magnifique de Barry White, et on voit sur l'écran deux cercueils avec les noms de Kouchen et Joey Starr, et chacun des deux part des deux côtés de la scène, et on savait que c'était la fin. Alors, c'est jamais vraiment la fin quand des artistes sont toujours vivants, mais quand même, ça y ressemblait sacrément.
Alors, évidemment, à l'heure d'écouter La Fièvre, je pourrais présenter moi-même le morceau, mais sachant qu'à l'époque, j'étais plus sur You Are Not Alone, c'est peut-être plus malin que je vous demande à vous, Olivier, de nous lancer ce titre, La Fièvre.
Ah ben La Fièvre, c'est... Alors, commençons par l'erreur historique. Elvis n'a jamais fait de live à Memphis. C'est pas très grave, mais bon, fallait le dire. Et puis ben voilà, c'est effectivement... Et ça, c'est vraiment l'œuvre de Kouchen. C'est un album où il y a, notamment avec ce morceau, une ouverture vers quelque chose de plus radiophonique. Bon, c'est pas non plus les musclés ou la lambada, hein, mais il y a quelque chose qui fait qu'on va sortir de ce côté très très sombre qui était l'apanage du premier et du deuxième album pour un truc où, effectivement, il y a des radios qui vont commencer à les jouer. Et La Fièvre, ben, ça va être le premier déclic qui va les amener vers la notoriété qu'on connaît encore aujourd'hui.
Tout a débuté un matin quand à 10h10 je fus tiré du lit par l'emmerdeur de service. Mon voisin du dessus en bon fan d'Elvis passe ses week-ends à foutre à fond des lives de Memphis. Le pire c'est que je n'ai quasiment pas d'or, mais de la nuit sache qu'hier au soir je suis sorti mec jusqu'à 6h du mat. Tu peux comprendre ça, ça ne me fait pas plus de 4h de sommeil exact. Je vais encore passer la journée là tête dans les vapes en plus. J'ai des rendez-vous importants, des interview, ça risque d'être chaud, je suis de mauvaise humeur, je l'avoue, mais j'assume, je contrôle d'ailleurs, je suis déjà au volant de ma caisse direction, les abaisse, oh, j'ai rendez-vous avec l'homme que l'on nomme Joey Starr, mais j'ai pas fait 500.
100 mètres, que les keufs m'arrêtent et me prient de me mettre sur le côté afin de me soumettre à un contrôle d'identité, simple formalité quand on a ses papiers. Mais voilà là, je les avais pas sur moi, j'ai donc été invité au commissariat. Oula, ils m'ont mis la fièvre pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre.
Putain, 3 heures maintenant que je l'attends. Marre de faire la bande kilométrée comme trop souvent. Le revoyant me précisant, mon insistant, qu'il me faut arriver dans les temps pour un truc important. Quand t'apparaît devant moi une pièce, c'est mal barré, pour que je reste planté là, c'est mal barré. Faut que je me décide et fasse mon choix dans des réactions très nettes.
C'est net.
J'ai plus qu'une seule idée en tête, faut que je la serre. Avant que cela ne me manque, il faut qu'on fasse la paire. Mais il faut que je tempère mon excitation.
Oh, mais
j'ai déjà la fièvre à la vue de ce
canon.
Donc ce zéplos trop contemplatif.
Non, laissez-moi encore un peu de temps, c'est pas le bon moment.
Je sais, j'ai pas la journée, mais je peux prendre tout mon temps. Tant il lui plaît que je lui fasse du rentre dedans. Cette forme qui s'endule, moi ça j'aime. Tant pis pour qu'on le chaîne, j'en lâche pas, non j'enchaîne. Comme se le doit leur fèvre. Jamais, jamais d'un coup de lièvre. Alors, pendant des heures.
Mais elle m'a mis la fièvre
pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures.
Mais elle m'a mis la fièvre
pendant des heures.
Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures.
Mais elle m'a mis la fièvre
pendant des heures.
Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures.
Mais elle m'a mis la fièvre
pendant des heures.
Mais
ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Je suis resté assis sur un banc contre le radiateur. J'avais pourtant des choses à faire. J'avais beau le répéter, mais y'avait rien à faire. C'était définitivement pas mon jour. Déjà de rock au réveil, j'étais pas vraiment pour. Y'a des jours comme ça où tout ne va pas pour le mieux. Y'a des jours où tout part en couille, tout court.
Parle pour toi, ne sais, car pour moi ça fait terrible. J'ai passé la journée avec une meuf terrible. Une pH de magazine. Beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines.
Donc
je te laisse imaginer la suite. Je te fais pas de dessin, ça risque d'être censuré dans le clip. Mais bon, il n'y a pas de répit, pas de trêve. Pendant des heures et des heures,
je lui ai mis la fièvre.
Pendant des heures,
je lui ai mis la fièvre. Pendant des heures,
je lui ai mis la fièvre.
Pendant des heures,
je lui ai mis la fièvre. Pendant des heures,
je lui ai mis la fièvre.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Retour en 95 avec le troisième album de NTM et leur concert triomphal au Zénith. On replonge dans cette époque avec la mémoire du rap français, Olivier Cachin. Olivier, ce troisième album de NTM, Paris sous les bombes, il va faire date. Vous le classez numéro 6 dans votre top 10 des meilleurs albums de rap. À titre de comparaison, c'est quoi le numéro 1?
Oh, pour moi, ça sera toujours l'école. Alors,
L'école du micro d'argent.
Enfin, c'est ses premières consultations de Doc Gynéco. Et puis, un autre jour, ça pourrait être l'école du micro d'argent. Et un troisième jour, Lunatique, Mauvais Oeil. Tout ça est quand même, on est dans une telle excellence que les top 10, c'est sûr, c'est bien d'échanger tous les jours, parce qu'à un moment, sinon, si on reste bloqué, ce qui est bien, c'est que ça fait toujours parler. Quoi, comment vous avez osé mettre un tel et pas un tel, mais celui-là, mais attendez, non, c'est pas possible. De toute façon, un classique, ça, c'est un truc qui s'est avéré toujours vrai. Faut attendre au moins 5, 10 ans pour être sûr. Et là, ceux-là, on sait.
On sait maintenant. Alors, la fièvre, on vient de l'entendre. Plus jamais ça aussi, ça, c'est clairement un titre contre le Front National. L'engagement politique, ça fait partie de l'ADN d'NTM.
Oui, dès le premier album, hein, ça a toujours été un groupe, d'ailleurs, c'est marrant, parce que l'image qu'ils avaient à cause de leur nom Nictam, c'était des espèces de barbares, destructeurs, Attila, les Goths, les Visigoths et autres Goths. Mais en fait, le premier album, c'est Blanc et Noir, c'est L'argent pourrit les gens, c'est Paix, c'est un groupe finalement très humaniste. C'est ça qui est très étonnant, c'est de voir à quel point il y a un décalage entre l'image publique qu'ils avaient, due à certains politiques et critiques, rock critiques qui n'aimaient pas trop les NTM, et le fond de leurs paroles. Et il y a eu toujours effectivement cet engagement. C'était d'ailleurs l'apanage du rap français des années 90, ce côté très militant anti-Le Pen, anti-bavure policière qui dénonçait. Aujourd'hui, on est plus sur du camping quand même, pour beaucoup en tout cas.
Les rappeurs s'engagent plus aujourd'hui ?
Beaucoup moins, beaucoup moins.
beaucoup, beaucoup, beaucoup moins.
Il y a une date quand même, le 14 juillet 1995, il chante à la Seine-sur-Mer pour protester contre l'élection d'un maire FN à Toulon, NTM. Le concert est organisé par SOS Racisme. Qu'est-ce qui se passe au cours de ce concert ?
Alors il y a Patrick Bruel aussi, on l'a peu dit, mais plusieurs artistes. Et ben, ce qui se passe, c'est que Joe Starr fait un commentaire ironique et pas du tout agressif, mais plutôt drôle sur ces hommes en bleu. Retournez-vous, regardez, ils sont autour de vous. Bon, il fait toute une petite chatch. Et c'est là où on a toute l'hypocrisie de la justice française, parce que le morceau Police qu'ils vont jouer n'est pas ce qui est attaqué, c'est les propos autour du morceau. Et donc il va y avoir un procès. Et pour faire vite, le premier jugement, c'est interdiction d'exercer leur art pendant 6 mois, de la prison avec sursis, une amende qui heureusement va être cassée en appel, mais ça fait un barouf pas possible, parce que interdire des artistes d'exercer leur art, c'était quand même assez inédit au pays des droits de l'homme.
Justement, on a un extrait de Qu'est-ce qu'on attend ?
Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour
En 1995, aujourd'hui on a les réseaux, etc. Mais comment on se fait connaître quand on est un petit groupe comme NTM, qu'on vient de banlieue, qu'on n'a pas de contact dans la musique ?
Bah déjà, ils étaient quand même signés sur une maison de disques qui était Epic, donc il y avait une puissance de feu derrière qui accompagnait la musique. Et puis, bah, toujours pareil, la tournée, les clips, les visuels, et puis cette espèce... Il y a quelque chose, il y a une expression que j'aime bien de Joey, ça se touche pas, ça s'explique pas, ça se palpe. Et ils ont une star quality, une aura autour d'eux qui fait que même leur premier morceau sur Apatitude en 90, qui était un morceau bancal, mal foutu, on sentait qu'il y avait un truc unique. Et ça n'a fait que se développer. Donc NTM, oui, c'est un groupe, tous ceux qu'ils ont vus sur scène, parce qu'au début, ils ont fait beaucoup de festival rock, ils arrivaient face à des mecs avec des guitares et des amplis, et ils avaient une platine sous le bras avec un DJ. On dit, mais c'est où la musique ? Bah, c'est lui la musique, c'est DJS. Bon, et quand ils arrivaient, ils fumaient tout. Il y a des souvenirs, c'était à Montreux où ils étaient passés. Il y avait Ice-T qui, à l'époque, il y avait un groupe de hard rock qui s'appelait Body Count, qui regardait sur les moniteurs leur passage et qui devient blême. Il fait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après ça, quoi ? Donc, les mecs mettaient le feu partout. Donc, il y avait cette puissance de feu qui faisait que même sans musicien, car ils n'avaient pas de musicien, ben, NTM, c'était incroyable, une expérience scénique unique.
En 95, ils remplissent le Zénith.
Pour la deuxième fois.
Ça, c'est nouveau à l'époque, des rappeurs qui remplissent un Zénith ?
Oui, c'est nouveau parce qu'à l'époque, il y avait encore une hiérarchie. Vous savez, on parle de la hiérarchie des médias, mais là, c'était la hiérarchie des salles. Alors, on commençait par une petite salle, genre la Cigale ou la Maroquinerie, puis après, on pouvait espérer un petit Zénith. Et puis enfin, aujourd'hui, le standard de base, c'est la Cor Arena quand même, faut le dire. Non, mais c'est vrai, des artistes comme vous connaissez PLK, par exemple.
Non, mais moi, c'est pas une référence, PLK, mais Manon connaît.
PLK, c'est 3 Accor Arena remplis sold out.
Mais c'est pas la même jauge. Le Zénith, c'est 6000 personnes. Oui, c'est ce que dit. 18 000, ouais.
Exactement. Oui, donc, maintenant, on est passé à un stade très très haut. Et ça, c'est presque le démarrage pour un groupe qui. Un groupe, pas un groupe, un artiste, aujourd'hui, il n'y a plus de groupe, qui commence vraiment à exister. Alors qu'à l'époque, quand ils ont fait le Zénith en 92, c'était unique parce qu'ils avaient un album sous la ceinture et tout le monde s'est dit, ils vont se casser la gueule. Et non, ils l'ont rempli.
Vous dites qu'il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de groupe dans le rap aujourd'hui ?
Bah non, vous en connaissez, vous.
PNL, c'est un groupe.
Oui, ça fait 5 ans qu'ils n'ont rien fait
c'est vrai.
Sinon, c'est des individus. C'est maintenant, on est plus sur des artistes solo, que ça soit Freeze Corleone, Joker ou d'autres.
Manon qui tente de reprendre Olivier Cachin sur sa science du rap. Je trouve que c'est beau, c'est courageux, ça manque pas de panache.
Je me posais la question.
Y aller comme ça, c'est bien joué. Alors, on revient en 95, une année riche en émotions, et Quentin a pu le constater une fois de plus aux archives de l'INA.
Oui, car 1995 marque la fin de 2 septennats du président Mitterrand, donné perdant face à Balladur. Jacques Chirac entame une campagne compliquée. Mais l'introduction du thème de la fracture sociale, sa proximité avec les Français et son humour vont lui donner un nouveau souffle. J'ai retrouvé ce qui me semble être un parfait symbole de ce tournant. C'est lors de son passage sur Canal+, face à Michel Field. Nous sommes en janvier 95.
Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif.
Merci.
Vous me dites, au fond, vous n'avez...
pas, hein.
Non.
Parce que 2 minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre. Alors, s'il vous plaît.
Oui, je sais bien, malheureusement. Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Désolé.
Michel Field rit jaune, mais accepte la punchline. Édouard Balladur baisse dans les sondages, Chirac monte, le premier tour arrive, et alors cette phrase va rester dans les mémoires de la politique française.
Je vous demande de vous arrêter.
Et pourtant, Chirac, lui, ne va pas s'arrêter jusqu'au 7 mai 1995.
Il est 20h. Voici le choix des Français.
5e président de la 5e République. Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui.
Cette année-là, à la radio, on entend cette chanson qui est née dans un studio à Paris.
Je reviens sur le souffle ou je compte ?
Là, bien dans le souffle, là, c'est là où la rythmique part. Et tu fais, c'est très un peu sexy, il fallait pas commencer.
Fallait pas commencer.
l'album de la rencontre entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Résultat, 44 semaines en tête des ventes. C'est l'album francophone le plus vendu de tous les temps, 12 millions d'exemplaires. 1995 en France, ce sont aussi les grèves de décembre.
Ils défilent pour la troisième fois, ils sont en grève depuis 11 jours et aujourd'hui les cheminots sont plus déterminés que jamais. Ils durcissent le ton et les slogans.
C'est le plan Juppé qui veut ça, vous voyez ?
Ça fera quoi le plan Juppé ?
La mort des cheminots, en direct.
Le plan Juppé, réforme des retraites et de la sécurité sociale, 22 jours de grève et le gouvernement qui finit par céder. Alors que Jacques Chirac crée la polémique en reprenant les essais nucléaires en Polynésie, la mort frappe en plein Paris.
Madame, monsieur, bonsoir. 4 morts, une quarantaine de blessés à la suite d'une mystérieuse explosion cet après-midi au cœur de Paris, dans la station Saint-Michel du RER. Le président Jacques Chirac s'est rendu sur les lieux, ainsi qu'Alain Juppé. Pour le Premier ministre, rien ne permet pour l'instant de dire qu'il s'agit d'un attentat, mais les présomptions sont extrêmement fortes.
Orchestré par le groupe islamiste armé algérien, une bombe explose dans une rame du RER B. Bilan définitif, 8 morts et plus de 100 blessés. Prenons un peu de hauteur maintenant, avec une première dans l'histoire spatiale.
Elle s'appelle Helen Collins. C'est la première femme à piloter une navette spatiale.
J'ai envie de bien faire parce que je sais que je représente toutes les femmes de ce pays, tous les pilotes, aussi bien les pilotes militaires que les civils qui, eux aussi, espèrent voler un jour dans l'espace.
Première femme pilote. En tout, 79 femmes sont allées dans l'espace, qui représente 12% des astronautes. Le 25 novembre 1995, une disparition.
Le monde de la presse, et plus particulièrement de la télévision, rend hommage à Léon Zitrone, disparu à l'âge de 81 ans.
Allô Guy Lux, Guy, oui. Je vous demande infiniment pardon, Guy.
Oui.
Je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes.
Ce cher Léon, à qui on avait cassé ses lunettes, a fini par casser sa pipe. Pour la dernière archive, remontons 2 ans en arrière, signature des accords d'Oslo à la Maison Blanche, et cette poignée de main historique entre Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, et Yasser Arafat, leader de l'OLP. Mais le 4 novembre 1995, donc 2 ans plus tard, alors que Yitzhak Rabin tient un discours sur la paix en Israël...
Tous ces gens sont l'expression de la majorité qui veut la paix et qui s'oppose à cette violence politique inconnue jusqu'à aujourd'hui en Israël.
Yitzhak Rabin, qui vient de prononcer ces paroles prémonitoires, s'écroule. Un homme tire sur lui à bout portant. Il est sans connaissance. Le meurtrier est arrêté sur le champ.
C'est un tournant majeur dans l'histoire du conflit israélo-palestinien et c'est sur ce drame de la place des rois d'Israël de Tel Aviv que je referme ce complètement aux archives.
Merci Quentin. Évidemment, Olivier Cachin, j'ai envie de revenir avec vous sur cette petite archive qu'on a entendue de Céline Dion et Goldman en enregistrement. Alors, on est évidemment loin d'NTM. C'est l'album francophone le plus vendu de tous les temps, cet album 2. Vous vous en souvenez, j'imagine. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut aimer NTM, mais quand même trouver que c'est pas mal Céline Dion et Goldman?
Oui, c'est
de
la variété de très bonnes factures. Hein. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire que Goldman, encore aujourd'hui, plus de 20 ans après ses derniers sons, soit toujours parmi les personnalités préférées des Français. Oui, ça fonctionne super bien, bien sûr. Très bien, comme Mireille Mathieu.
Oh non, non
quoi,
ouais, vous les mettez sur le même plan, Céline et Mireille?
Oui, des grandes chanteuses, dans deux époques différentes, mais oui.
Pour que tu m'aimes encore, il existe une version secrète, chantée a cappella par Manon Mariani un samedi soir à la sortie d'un bar à shot. Pour l'instant, je me la garde sous le coude, mais attention
vous
Manon,
pas, je
au
sais
moindre faux pas.
Pas,
je l'ai ici même dans mon téléphone, au moindre faux pas, je la balance à l'antenne. Non. Olivier Cachin, le spécialiste du rap français, est avec nous pour revivre cette année charnière pour le rap, et particulièrement NTM 1980. On a parlé de cet album Paris sous les bombes et de la tournée triomphale qui a suivi. Ils étaient accueillis partout de la même manière, NTM, ou certains endroits étaient plus compliqués pour eux? Marseille, par exemple, ils étaient bien accueillis là-bas?
Oui, a priori, il n'y a jamais vraiment d'histoire par rapport aux concerts de NTM, sinon ceux des tout débuts. Il y a eu quelques concerts où ils étaient avec IAM et où il y a eu quelques petites... oui, notamment un concert qui était pour les banlieues bleues à Saint-Denis, où c'est parti en cacahuète, mais alors d'une force atomique. Pas à cause des groupes, mais à cause d'une organisation très très chaotique, et là c'était très très chaud. Mais enfin bon, il y a eu l'équivalent après à Marseille, parce qu'à l'époque, les IAM avaient dit dit oui, bon, l'organisation, sous-entendant que c'était peut-être un peu les NTM dont c'était la faute. Mm. Quand il y a eu l'équivalent à Marseille avec un autre concert, NTM a dit ils contrôlent pas plus que nous, visiblement. Enfin, bon. Mais non, sinon rien de
mais du tragique. Coup, cette concurrence avec IAM, c'est un peu une légende?
Non, c'est une vraie concurrence, mais une concurrence musicale. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'époque des clashs, où il y en a beaucoup, notamment avec des artistes comme Booba qui a clashé à peu près l'intégralité de la planète rap, à l'époque, jamais ni IAM ni NTM n'a fait un morceau ou une allusion quelconque à l'autre groupe sur disque. Donc ils sont pas partis en vacances ensemble, mais ils ont fait des tournées ensemble. Mais en tout cas, non, il n'y a jamais rien eu de... Mais cette concurrence, elle était musicale. C'est-à-dire que quand NTM a fait ses trois clips avec Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, La fièvre et Tout n'est pas si facile, en réponse, il y a eu IAM qui avait fait avec l'École du micro d'argent ses clips pharaoniques et incroyables avec des effets spéciaux. Donc il y avait une concurrence, mais elle était musicale.
Mais c'est quoi les grosses différences entre les deux groupes?
Bah, c'est que ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'était très tentant et beaucoup l'ont fait. Moi, le premier, ce côté genre PSGOM, oui, Paris-Marseille, évidemment, ça fonctionne bien. Mais après, ça n'empêche pas. Vous me demandiez est-ce qu'on peut aimer NTM et Céline Dion. On peut aussi aimer NTM et IAM. Et en l'occurrence, c'est deux groupes qui sont très différents. Par contre, là où il y a un domaine où il n'y a pas vraiment photo, c'est la scène. Et là, NTM a toujours été, très très au-dessus. Parce que les concerts d'NTM, encore une fois, c'était de la dinguerie. IAM, c'était des très bons concert, mais c'est pas la même énergie.
C'est plus carré.
En même temps, NTM a cessé d'exister en tant que groupe sur scène depuis déjà plusieurs années, puisque c'est 2018-2019 les derniers concerts, alors que IAM est encore aujourd'hui un groupe qui tourne et qui tourne beaucoup.
En 95, IAM remporte la victoire de la musique du groupe de l'année et MC Solar la victoire de l'artiste masculin de l'année. 95, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, c'est la consécration du rap en France.
Ben, la consécration médiatique en tout cas, parce que c'est vrai que par ailleurs, ça faisait un moment que ça commençait à monter. Et puis il y a aussi une radio concurrente, Skyrock, qui ouvre son antenne au rap et ça va changer beaucoup de choses, parce que ce qui est très étonnant, c'est qu'il faut bien voir que jusqu'à cette année 95-96, le rap français est quand même sous un plafond de verre qui est extrêmement bas, c'est-à-dire que les radios, les télés et les médias en général donnent beaucoup moins d'importance, y compris à chiffre égal, à un artiste de rap qu'à un artiste de variété ou de rock. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier.
Skyrock, ça a changé la donne.
Ah bah oui, parce que tout d'un coup, sur une radio nationale, on avait du rap de façon assez systématique, ce qui n'était pas le cas des autres radios, y compris celle-ci, tout aussi...
On s'est bien rattrapé depuis.
Oui.
À suivre, une guerrière qui rend hommage à une guerrière. Manon Mariani nous raconte une première fois dans le monde des séries en 95. Camille Diao s'apprête-t-elle à rendre hommage à une chanteuse qui a été moins diffusée sur Inter que Barbara, mais qui mérite aussi, vous verrez, notre attention. Zoom Zoom Back revient après Bad Bunny, Vueltita sur Inter. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, yo sé la vida así Pero ponte el traje de baño, mami, que te voy a buscar. Te dejo mojadita, el sol te va a secar. Sí, te va a quemar. Tú eres mi canción favorita. Y en repeat te voy a tocar, ey, te la voy a aplicar. Quiero dibujar corazoncito en la orilla. Tranquila, mami, yo te cargo la silla. Esos ojitos lindos, me encanta cómo brillan. Como una diosa puede ser tan sencilla. Flaca, yo daría lo que fuera. Tú me dices, si adentro o afuera, debajo del agua, nadie se entera. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo, tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita.
Contigo me siento distinto. Hay algo cuando nos miramos. Y en el pozo nos dimos la mano. Así todo. Cuando no estoy en la buena, tú me llevas a hacer castillos de arena. Y los castillos se convierten en aldeas. Un pueblito donde no existen problemas.
Zum Zum Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom zoom back, direction 1995, aujourd'hui avec notre invité Olivier Cachin. Et Manon, chaque vendredi, vous nous racontez une première fois.
À la rentrée 1995, pas beaucoup de nouvelles séries sur les chaînes américaines. Friends, une sitcom sur un groupe de New Yorkais, commence à peine à se faire un nom. Avec sa deuxième saison, Chuck Norris réapparaît sur les écrans pour sa troisième année dans Walker, Texas Rangers. Et c'est bientôt la fin du Prince de Bel-Air qui a fait exploser un certain Will Smith. À l'époque, rare était les séries avec une femme en personnage principal, seule, sans homme à ses côtés. Heureusement, une guerrière a fait son apparition.
She was Xena, a mighty princess forged in the heat of battle.
Xena, the warrior princess, Xena la guerrière, longs cheveux bruns, yeux clairs, toute vêtue de cuir avec son épée à la main, interprétée par l'actrice Lucille Oless, elle détonne dans le paysage audiovisuel d'il y a 30 ans. Certains fans de la série Hercule la reconnaissent car c'est là-bas qu'elle est apparue pour la première fois quelques mois auparavant. Sauf que Xena était une méchante, une chef de guerre intrépide qui tuait et pillait des villages sans foi ni loi. Les 4 épisodes où elle apparaissait ont très bien marché niveau audience, ce qui a donné envie aux producteurs de créer un spin-off centré sur elle. Xena la guerrière arrive donc à la rentrée de septembre à la télé américaine et l'année d'après sur TF1. Comme Hercule, elle se déroule en grande partie dans la Grèce antique en réinventant les histoires mythologiques. Dans ce premier épisode intitulé « Retour au pays natal », Xena décide de tourner le dos à son passé violent. Elle part dans sa quête de rédemption, mais pas seule, puisqu'elle fait la connaissance de sa comparse de voyage.
Tu veux bien m'emmener avec toi et me montrer tout ce que tu sais faire? Je t'en prie, ne laisse pas ici.
Pourquoi?
Mais tu as vu l'homme avec qui on veut me marier? Xena, cette vie au village est insupportable. J'aimerais bien connaître un peu le monde.
Gabrielle, une villageoise toute blonde, toute gentille, qui contraste avec le personnage de Xena, mais vous l'avez entendu, les deux femmes ont un point commun, elles ne veulent pas être soumises à une emprise masculine. C'est donc ce duo que l'on va suivre durant 6 saisons. Un duo emblématique puisque la relation entre Xena et Gabrielle n'est pas qu'une simple histoire d'amitié. Les deux ont une alchimie palpable à l'écran qui rend fou les fans. On est dans les années 90, c'est le début d'Internet et des forums, et l'ambiguïté entre Xena et Gabrielle est devenue le point central des débats. Sont-elles amoureuses? Plusieurs indices laissent penser que oui, des jeux de regard, des câlins pleins de tendresse et des déclarations passionnées.
I love you, Xena. I love you too, Gabrielle.
Si vous ne reconnaissez pas cette scène, c'est normal, car beaucoup de ces dialogues et sous-entendus amoureux ont été coupés dans les doublages en français de la série. Mais petit à petit, les deux héroïnes deviennent des icônes pour la communauté lesbienne qui était très peu représentée à l'écran dans ces années-là. L'homosexualité était encore tabou, on sortait à peine des années sida, et les personnages queer dans les fictions étaient souvent des caricatures sans beaucoup de substance. Grâce à Xena, la communauté queer a commencé à se sentir représentée dans des séries grand public, et d'autres personnages, cette fois-ci ouvertement lesbiens, ont pu être créés. C'est le cas de Willow, par exemple, dans Buffy contre les vampires. D'ailleurs, les deux séries ont souvent été comparées car elles mettent en scène des femmes fortes, indépendantes, sorte d'icônes féministes. Mais pour Xena, je suis quand même un peu plus mitigée. En voyant les images, on est quand même face à un personnage très sexualisé. Son corps est très souvent objectifié à cause notamment de son armure composée d'un très grand décolleté et d'une jupe très courte. Alors oui, on est dans les années 90, on t'interroge encore peu sur le male gaze et sur la sexualisation des femmes à l'écran. Mais c'est important de souligner que Xena la guerrière représente aussi un fantasme masculin. Rappelons que c'est une série écrite, produite et filmée par des hommes. Mais les 6 saisons de Xena la guerrière ont marqué leur époque, si bien que selon le Hollywood Reporter, les producteurs veulent en faire un reboot. La chaîne NBC serait actuellement à la recherche de sa future Xena. Ah. On espère cette fois-ci qu'elle sera ouvertement lesbienne sans avoir besoin de lire entre les lignes.
J'allais dire postuler, donc non, mais non, parce que Manon est aussi actrice, elle aurait pu.
Oui, c'est vrai.
Vous pouvez tout jouer, parfois.
Je parle très bon accent anglais, malheureusement.
Oh, ah bon, ça
ne s'entend pas.
Olivier Cachin, aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération de rappeuses. Elles étaient nombreuses en 95, les rappeuses en France.
Ça a toujours été les mêmes proportions qu'au Sénat, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très mineur, mais il y en a, du coup, celles qui ont existé ou qui existent toujours, qui continuent à rapper, sont quand même assez importantes. Hein. Je pense notamment à Kenny Arcana, qui est la meilleure d'entre elles, puisque c'est une artiste incroyable, qui a fait des disques formidables, qui est un petit peu en retrait aujourd'hui. Son dernier morceau, c'était Gaza, qu'elle a sorti au début de l'invasion à Gaza. Mmh. Et sinon, ça fait un moment qu'on attend Exode, son nouvel album, qui arrivera peut-être un jour, mais elle habite à l'étranger à l'heure actuelle. Mais sinon, on en a toujours eu très peu. Mais dès le début, il y en a eu. La première compilation Rap Attitude, il y avait Salia. Après, il y a eu Bilove, qui était une rappeuse afrocentrique. Il y a quelques-unes. Mais encore une fois, aujourd'hui, on attend désespérément la succession de Diams, voilà, qui est celle qui est la dernière qui a eu vraiment un succès commercial et rapologique énorme.
On poursuit notre exploration de l'année 95 avec le spécialiste du rap, Olivier Cachin. Olivier, est-ce que les fans de rap aujourd'hui, les jeunes générations en particulier, ils connaissent le rap des années 90, ils connaissent le NTM dont on a parlé cet après-midi, ou c'est juste de la préhistoire pour eux ?
C'est un petit peu avant la préhistoire. C'est vrai que, en fait, c'est une musique très jeune, qui a toujours eu un public assez jeune, mais sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des quarantenaires et des cinquantenaires qui sont « Ah, c'était le bon temps ouais, », ce ouais. qui est assez logique, mais c'est vrai que la transmission est quelque chose qui est souvent ce qui fait défaut dans le rap français, et il y a beaucoup effectivement d'artistes qui sont peu connus de ceux des années 90 par le public d'aujourd'hui. Le meilleur exemple, c'est dans une émission qui s'appelait Rap Jeu, il y avait Kobalade qui est lui au trou pour le moment où on parle, et c'est un jeu où ils doivent citer des artistes de Marseille. À un moment, ça se termine et Mehdi Maizi, le présentateur, fait « Vous auriez pu citer IAM », et là on entend, ils ont remonté dans le mix après au montage, c'est qui IAM ?
Wow.
Ah ouais, ouais.
De la part d'un rappeur d'aujourd'hui. Donc, ouais. C'est dire à quel point effectivement cette amnésie, elle n'est pas seulement due au public, mais aussi aux artistes.
Quand on réécoute des morceaux du rap français des années 90, on a l'impression qu'il y a des trucs qui ont hyper bien vieilli, qui pourraient être peut-être d'aujourd'hui, et puis d'autres qui sont complètement ringards. Comment vous expliquez cette différence ? Parce qu'ils oui, travaillaient tous avec les mêmes sons, les mêmes machines, j'imagine.
Bah, c'est déjà, c'est une musique, elle est deux pieds dans le présent, donc forcément, quand on est dans l'actualité, ça se démode plus facilement. Mais après, quand on fait des classiques, quand on a une ampleur musicale comme celle de NTM, ou de IAM, ou de Ministère Amer, ou de Doc Gynéco, bah, forcément, il y a des trucs qui restent. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être une musique qui, dans son ensemble, vieillit plus vite que d'autres, mais ceux qui restent, du coup, sont vraiment des monuments.
Vous dites, Olivier Cachin, que le rap numéro un aujourd'hui, mais que c'est une musique qui a abandonné pas mal des idéaux du début. C'était quoi, ces idéaux ? Est-ce que c'est compatible avec le succès
C'est la malédiction d'une musique qui obtient un succès populaire. Forcément, elle change, elle mute, elle n'appartient plus à une petite coterie comme au début. Et forcément, il y a aussi un moment où, au bout de 10-15 ans de lutte sociale, de discours pour protester, il y a des gens qui disent « moi, j'ai envie de m'amuser, le public a changé, il veut danser, il veut des morceaux légers.
»
Le rap accompagne ça aussi.
C'est moins engagé.
En tout cas, dans les textes. Après, l'engagement s'est aussi déplacé sur les réseaux sociaux. Pour certains, on l'a vu notamment avec le conflit israélo-palestinien, où il y a très peu de textes qui ont été faits. Il y a PNL et Kenny Arcana qui ont fait tous les deux un texte qui s'appelle Gaza. Le reste, ça s'est passé sur les réseaux, dans des stories, mais beaucoup moins dans les morceaux.
Ce qu'on ne savait pas en 1995, c'est que Paris sous les bombes était le troisième et surtout l'avant-dernier album de NTM. Ils sont séparés, leur dernier album c'est en 98, ils se sont séparés après. Pourquoi ils se sont séparés ?
Ah ben justement, c'est cet antagonisme entre les deux qui a amené à l'explosion du groupe, parce que c'était déjà la dernière tournée. Il y avait un bus à deux étages, il y avait l'étage Cool Chain et l'étage Joey Star. Ils avaient chacun leur groupe, enfin leur groupe d'amis et leur maison, enfin pas leur maison de disque, leur collectif, BOSS et For My People. Donc il y avait chacun commencé à avoir des envies différentes. Et puis c'était tellement intense cet alliage qu'à un moment ça devait exploser, et ça a explosé de façon spectaculaire avec effectivement une séparation qui a amené à une jachère du groupe pendant 10 ans. Ils sont revenus 10 ans après ensemble, mais pendant les 10 ans où ils n'ont pas enregistré ni tourné, il y a eu 3 ou 4 ans où ils ne se sont pas vus du tout. Donc c'est quand même une histoire d'amitié, mais aussi une histoire très intense entre les deux.
Pour finir, Olivier Cachin, votre regard sur le rap français actuel, est-ce que les Booba, les Kaaris, c'est les successeurs de NTM ou pas du tout ? C'est les Céline Dion d'aujourd'hui ?
Déjà, Booba, c'est quand même plus de 20 ans de carrière et zéro défaite, rappelons-le, même presque 30, puisque c'est 96, son premier morceau avec Lunatic. Non, il y a des très bonnes choses. Après, on va retrouver avec un artiste comme Freeze Corleone, justement, le goût de la provocation, de la qualité textuelle, d'un jeu de référence très très sophistiqué qui rappelle un petit peu justement ce que pouvait être le rap militant des années 90 dans un autre contexte. Mais sinon, globalement, c'est vrai qu'on est plus sur une ambiance légère avec des textes. Alors ça n'empêche pas la qualité, il y a des très bons morceaux, mais c'est vrai que tout ce côté qui faisait ce qu'était le rap français des années 90, aujourd'hui ça a complètement changé. C'est une inversion nietzschienne des valeurs en quelque sorte.
Beaucoup de spécialistes musique dans cette émission aujourd'hui. Olivier Cachin, moi, et maintenant Camille Diaobon. Bonjour.
Salut Mathieu.
L'heure de votre rétro-pop 95, c'est certes le premier âge d'or du rap français, mais c'est aussi l'année de l'explosion d'une certaine Ophélie Winter.
Eh bah oui, avec ce morceau qui, dès sa sortie, tourne en boucle sur la bande FM. Mais tu veux que je me fasse virer ou quoi? Ça, c'était la réaction de Cyril Lacarrière, notre rédac-chef, quand je lui ai parlé d'Ophélie Winter. C'est alors, chers programmateurs musicaux de France Inter, sachez que j'assume l'entière responsabilité de cette chronique et je vais même essayer de vous convaincre qu'Ophélie Winter a été une pionnière.
Une pionnière, carrément.
Eh ben oui, carrément. Je pèse mes mots et je vous sers deux raisons pour le prix d'une. Je commence par sa musique, parce que Dieu m'a donné la foi marque le début d'un nouveau son qui va bientôt déferler sur la France. Un son qui vient des États-Unis où depuis quelques années cartonne une sorte de nouvelle pop afro-américaine qui fait le pont entre le hip-hop et la soul. Ça s'appelle le New Jack Swing, porté par TLC, Mary J. Blige ou encore une certaine Janet Jackson. Alors en France, Ophélie Winter sera donc la première à exploser commercialement en reprenant tous les codes de ce nouveau son made in USA, la boîte à rythme hip-hop, boom boom jack. Poum poum tchak, la basse très funky, doum doum doum, et puis ce petit vibrato vocal pour allonger les syllabes à la fin. Ouais, c'est de ça que je parle. Le cocktail est efficace, le succès immédiat et dans son sillage, ce R&B qu'on appelle encore groove à la française va s'imposer jusqu'au début des années 2000 comme un incontournable des hit parades. Mais non, Laurice Larousseau, on t'a pas oublié. On n'a pas non plus oublié l'âme. Voilà, c'est toute mon enfance. Voilà donc pour l'héritage musical d'Ophélie Winter. C'était la raison numéro 1.
Oui, j'attends de voir la deuxième quand même.
Ben la deuxième, je pense qu'elle s'en serait bien passée. À mon sens, le succès d'Ophélie Winter en 95 annonce l'entrée dans ce que j'appellerais un peu pompeusement l'ère des bimbos. Le principal argument de vente de sa maison de disques, hein, c'est son physique. Ophélie, c'est une ancienne mannequin. Elle est blonde, elle est pulpeuse, elle s'habille de façon très sexy. Elle correspond en tout point à cet archétype féminin qui suscite dans notre imaginaire collectif autant de fascination que de mépris. Alors bimbo, c'est un mot qu'on n'utilise pas encore en 1995. Mais ça fait 4 ans que Pamela Anderson a préparé les esprits en débarquant sur TF1 en maillot de bain rouge. J'en connais au moins un autour de cette table qui s'en souvient encore, Mathieu.
Pas du tout. Moi, je regardais Chips avec les deux mecs à moto. Faut s'interroger sur ma sexualité.
Suivront donc Ophélie Winter, puis en 98, la comédie française Bimboland, jusqu'au point culminant en 2001. Ah oui. La déferlante Love Story avec sa star, Loana. En fait, Ophélie Winter, c'est un peu une pré-Loana. Elle a beau chanter, composer, présenter des émissions de télé aussi, le Hit Machine sur M6, on ne parle que de sa poitrine. Et sa marionnette au guignol va contribuer à forger cet archétype de la bimbo stupide.
Ophélie, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur la croisette?
Yeah, c'est hyper bien, là je suis à mon top, c'est juste la lutte totale.
Ophélie Winter, elle comprend très vite le piège dans lequel elle est tombée. Dès 96, dans l'émission Fréquence Star, elle décrypte le phénomène avec une très grande lucidité.
Je suis devenue un produit télévision, comme un produit de lessive. Et on m'a mis en couverture, avec des décolletés. Et ça m'a collé une image qui n'est pas moi du tout et qui est vachement dur à retirer, quoi.
Et Laurent Boyer de lui répondre « Mais voyons, ta poitrine est sublime !» Voilà comment les bimbos se sont très longtemps fait exploiter et puis broyer par l'industrie.
Parce que Camille, depuis les choses ont changé?
Ça n'a pas complètement changé, mais on a commencé à les écouter. Je pense au succès du hashtag BimboTok sur TikTok, ou encore au documentaire de Pamela Anderson sorti en 2023, qui lui a permis d'enfin reprendre le contrôle de son récit. Finalement, on n'est pas si loin de ce couplet d'Ophélie Winter. « Je ne veux plus jamais me séparer. » J'ai trop souffert. 30 ans ont passé depuis l'écriture de Céline, bah, il serait peut-être temps d'écouter un tout petit peu plus attentivement ce qu'Ophélie Winter avait à nous dire. Voilà, c'est tout pour moi. Cyril Lacarrière, vous pouvez annuler votre rendez-vous chez France Travail.
Oh, merci Camille, mais tout n'est pas encore fini. Je vous dis à la semaine prochaine dans Zoom Zoom Back. Et voilà quelque chose maintenant que je ne pensais jamais dire de ma vie. Alors je prends mon souffle et j'y vais. On écoute Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, sur France Inter.
J'étais assise sur une pierre. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Oh, yeah.
temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a si souvent envie de voiler la face. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Fantômes, fantômes de l'amour. Ceux qui en accourantèrent passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en veux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières.
Conclure ce Zoom Zoom Pack spécial 1995. On vient d'écouter, on l'a écouté en entier, Camille, la chanson.
Eh oui, les 4 minutes.
C'est incroyable. On est allé jusqu'au bout.
J'espère qu'on n'a pas perdu trop d'auditeurs, mais c'est quand même bien produit. Hein.
Ah, c'est vrai que c'est bien produit, ça, je vous le concède. On va retrouver maintenant le spécialiste du rap suisse, Charles Nouveau. C'est à vous.
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, il n'y a plus de boulot. La boucle est bouclée. Le système à la tête sous l'eau. On entend des trucs plus hardcore dans les morceaux d'aujourd'hui, mais à part sur la date, ça reste un ressenti assez actuel pour beaucoup de gens. Et ça fait des droits d'auteur pour Joe Star et Cool Chen, ou Didier et Bruno, comme je les appelle, lors de notre séance hebdomadaire de paddle, les mardis à 17h30, où je joue en double avec Lord Co-City, qui, comme vous l'entendez, insiste toujours pour que j'aille au filet. Les imaginer en short avec des petites raquettes à trous, ça nous amène indirectement à se poser la question, peut-on encore être subversif quand on a 50 ans passés ? Et Cyril Lacarrière est absolument outré que chez vous, vous osiez encore vous poser la question. Alors déjà, si on se replonge dans l'œuvre de ce qui est probablement le duo le plus légendaire du rap français, devant PNL, devant Lunatic et même devant Chris Waddell et Basile Boli, on se rend compte que ça reste assez pertinent aujourd'hui, ça continue d'inspirer, ne serait-ce que le titre de cette émission. Qui n'est donc pas Zoom Zoom Zen, un hommage en verlan à l'énorme pif de Mathieu Noël en matière de sélection de chroniqueurs. En matière de sélection de chroniqueurs, bien sûr. Mathieu Noël, dont on est content qu'il aille mieux, parce que la semaine dernière, il avait
la fièvre.
Eh oui, Mathieu Noël, qui par ailleurs sait très bien que Joe Star est encore subversif aujourd'hui, parce qu'il habite un quartier où j'ai brièvement habité moi-même, figurez-vous, et où on croise souvent Joe Star. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'étais dans mon salon, vrai l'histoire, un mardi à 4h du mat, pour aucune bonne raison. Maintenant, vous connaissez l'un des secrets pour avoir ce teint de rêve. Je vais à la fenêtre et là, je vois passer Jaguar Gorgon en personne, en voiture, qui hurle à travers la rue « On va tous mourir !» Je crois qu'il était juste en route pour aller faire une lessive, un truc comme ça. Mais en même temps, il a pas tort. On va tous mourir un jour. Peut-être qu'il aime juste rappeler aux Parisiens les vérités importantes de la vie. Et des trucs du style « Le bonheur est une quête intérieure !»« La famille, c'est important !» Alors, vous vous demandez alternativement aussi peut-être si on peut encore être subversif quand on joue dans des séries TF1, ah peut-être. Oui. Déjà, si le président de la République peut dire qu'un type qui cumule des accusations de viol, qu'il rend fier la France, vous me pardonnerez si je rappelle que Joe Starr est quand même un très bon acteur et qu'il n'a pas volé ses deux nominations au César. Mais effectivement, je ne sais pas si on a besoin d'explorer la section filmographie de la page Wikipédia d'une personne pour établir s'il est subversif ou non, quand sur cette même page Wikipédia, il y a une section condamnation judiciaire qui est régulièrement updatée et qui fait 14 paragraphes quand même. Mais on va pas trop s'étaler dessus, déjà parce que ça serait trop facile et parce que je suis plus à l'aise de me moquer des condamnations judiciaires des gens condamnés pour crimes financiers, par exemple. Mon courage n'est plus à prouver. D'ailleurs, le fait que j'aime bien NTM et Joestar, ça doit certainement aider NTM dans leur quête de légitimité rebelle et subversive. Hein. Quand on m'écoute parler, en général, c'est unanime. Hein. Les gens se disent clairement, ce type transpire le hip-hop. C'est bien d'avoir conscience de qui on est et c'est aussi à ça qu'ils servent, Joestar et Kool Shen. Il y a plus de 15 ans, quand j'ai vu NTM en concert à l'Arena de Genève, entre deux morceaux, Kool Shen demande au public « Est-ce qu'il y a des scarlats dans la salle ?» Et là, on est plus de 3000 mecs à avoir gueulé « Ouais !» quand Joestar attrape son micro et nous rappelle « Calmez-vous, on est en Suisse quand même. » Il n'a pas complètement tort. Merci Didier.
Merci Charles Nouveau et à la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Olivier Cachin de nous avoir replongé dans la magie NTM en 95 pour aller plus loin. Même si je le signale que ma biographie de Dave, Vanina s'appelait Maurice, est toujours disponible. Si vous êtes plutôt NTM, il y a Rap Story, l'encyclopédie du rap chez Flammarion Jeunesse et Rap in France, l'émergence du rap français dans les années 90. Ça, c'est chez Castor Music, tous deux signés évidemment du maestro du rap, Olivier Cachin. Merci encore d'avoir été avec nous.
Bah, merci de l'invitation. Et puis juste un petit mot pour dire qu'en septembre, on aura un DVD de Rapline, le truc incroyable, double DVD qui sortira à la rentrée. On va retrouver tout le rap français des années 90 que j'animais sur M6 à l'époque.
Voilà. Et ben, DVD. Parfait. Merci encore Olivier, merci à tous les amis, Manon, Quentin, ce bon vieux Charles Nouveau, jamais aussi bon que Petit Soleil à 13h. C'était le cas aujourd'hui, je crois. Amitié également à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission. Florence Gimalac, Stéphanie Valois, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Lola Auvert et Gérald Arnaud. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana, à la technique Ludovic Asselot. Zoom Zoom Zen revient lundi 16h pour faire le point sur l'état du monde avec Jean-Marc Jancovici. On zoomera sur la génération 2050. Zoom Zoom Zen.